Le festival Vision du réel se déroule à Nyon jusqu'à mercredi avec un riche programme de documentaires et de rencontres. Ce week-end, le réalisateur israélien Eyal Sivan a participé à une après-midi de réflexion sur les archives, l'internet et la pratique documentaire. On reviendra sur ce sujet avec lui prochainement, mais on va parler ce matin de son dernier film, Jaffa, dans lequel il raconte l'histoire du conflit israélo-palestinien à travers les oranges. Il y utilise des archives, pour la plupart inédites, et d'une façon plutôt inédite. Eyal Sivan.
C'est un film qui essaye de suivre la façon dont laquelle a été construite l'image d'Israël à travers la marque Jaffa, qui est la marque des oranges qu'on connaît, qu'on la connaît en Suisse comme ailleurs. Et donc j'utilise en réalité des archives qui remontent jusqu'à l'invention de la photographie, puisque la Palestine est une première chose qui a été photographiée dans le monde immédiatement avec l'invention de la photographie, et j'y vais jusqu'à la publicité contemporaine. Ces archives qui sont des archives qui viennent des sources du monde entier, des archives de propagande, des archives institutionnelles, des archives publicitaires, des archives historiques, en réalité sont projetées à des gens qui sont interviewés, s'ils sont employés de l'industrie des agrumes, s'ils sont israéliens, palestiniens, historiens, poètes, critiques d'art. Et à partir de là, ils parlent justement de quelque chose qu'on pourrait appeler une déconstruction de l'image, c'est-à-dire de comment ces images sont faites, pour quel but ils sont faits, qu'est-ce que les images montrent. C'est une lecture des images qui en réalité raconte une histoire coloniale. C'est l'histoire de la colonisation de l'image, si vous voulez.
Et c'est l'histoire de la colonisation de la Palestine.
Les films est une histoire qui... Les films racontent l'histoire de la Palestine, mais à travers justement la construction de l'image de la Palestine. Comment la Palestine a été construite en image, c'est-à-dire cette projection mentale qu'on a tous, si c'est l'auditeur suisse, les consommateurs français, les spectateurs américains. Où on a une image de la Palestine, on a une image d'Israël. Et cette image-là a été construite. C'est une image qui a été sciemment et volontairement et idéologiquement construite. Et donc c'est cette déconstruction-là que j'ai fait pour raconter une contre-histoire de l'histoire habituelle qu'on a de la Palestine et des conflits israélo-palestiniens.
Vous êtes vous-même israélien et vous avez un point de vue très critique par rapport à Israël.
J'ai un point de vue critique par rapport à la politique israélienne depuis beaucoup d'années. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire mes premiers films dans les années 80, au début des années 80. Mon premier film, il est sur un camp de réfugiés palestiniens. J'ai toujours travaillé autour d'une réécriture de l'histoire israélienne, c'est-à-dire une déconstruction de l'histoire officielle pour essayer de raconter l'histoire vraie.
Est-ce que vous sous-entendez qu'il n'y a pas d'image sans message choisi ?
L'image est un texte. C'est comme dire, est-ce qu'il y a un texte qui n'essaye pas de dire quelque chose ? L'image est une construction. Est une construction. L'image n'existe pas avant qu'il se construise. Et qu'est-ce que ça veut dire construire une image ? Ça veut dire décider qu'est-ce qu'on ne va pas montrer. Puisqu'une image, c'est un cadre. Tout ce qui est en dehors de cadre n'existe pas pour le spectateur. Donc évidemment, l'image sont une construction et les images sont des constructions dans des contextes. Ils sont des textes et ils sont des textes à lire. Et ils sont des objets que parfois peuvent devenir même des objets des armes de guerre. Dans les cas des conflits israélo-palestiniens, l'image fait partie des armes de la guerre.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces armes à différentes époques par rapport aux oranges Jaffa, puisque c'est le thème de votre film ?
Oui, d'abord, la chose, je pense, qui est très intéressante, c'est de se rappeler que, comme dit l'historien palestinien dans le film Elias Sambar, la Palestine, c'est la Terre Sainte, si vous voulez, c'est une des choses qui ont été photographiées depuis l'invention de la photographie. Et la raison pour laquelle la photographie, c'était dans des grands débats au sein de l'Église protestante, c'est-à-dire ces débats qu'il y a eu avec Darwin, dans lesquels l'Église dit, ben voilà, ce qui est dans la Bible est de l'histoire, est vrai. Et donc, quand arrive le grand débat contre Darwin, bah, les photographes protestants vont s'atteler et dire bah, « on va aller en Palestine, on va vous montrer comment elle est la Palestine. » Et on va construire des images, on va faire des images qui correspondent au texte, non pas qui correspondent à la réalité. Sauf que la réalité ne correspond pas au texte. Donc on va forcer l'image à être des images bibliques. Et donc on va construire les déserts bibliques, etc. Et plus tard, avec le colonialisme, en réalité, c'est cette projection-là de la Terre Sainte qui va être la Terre biblique et la Terre d'opulence, etc., que c'est ça qu'on va essayer de montrer avec toute l'image orientaliste, toute la peinture orientaliste. Et quand il va y avoir la colonisation sioniste de la Palestine par les Israéliens, ben les Israéliens vont reprendre cette idée que c'est un désert qui a été fleuri. Quelque chose, une image qui est dans la tête de beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est une image vraiment qui a réussi. Beaucoup de gens pensent qu'avant qu'Israël ait été établi, c'était un désert. Et que les Israéliens, avec les kibbutz et tout, ont fleuri les déserts. Et l'orange était le symbole comme ça, de cette floraison de désert. Mais on n'a pas dit que ces oranges existaient avant puisqu'ils étaient palestiniens. Non, les oranges, c'est l'image qui a été vendue. L'image de soleil, l'image de fleurir les déserts, l'image des grands efforts sionistes, etc. Donc il y a comme ça cette évolution. Dans les années 70, ça va évoluer autre chose. Et pour les Palestiniens...
Mais peut-être juste une chose. Il y a des images complètement étonnantes que vous avez retrouvées dans les archives où on voit, par exemple, une manière de filmer presque... propagande soviétique, vous le citez, où c'est filmé depuis en bas, en contre-plongée, pour donner une impression de grandeur, et on voit les gens heureux en train de cueillir les oranges.
Bien sûr, parce qu'une des choses, c'est que les images qui se font sont des images qui ont de la référence, toujours. Alors évidemment, que dans les images de réalisme socialiste ou les images de fascisme sont... partout la même chose, et c'est pas important si c'est des images qui viennent de la Russie ou des images qui viennent d'Israël. Et tout. Au moment que on est dans cette vision héroïque de l'homme, triomphe sur la nature, etc., donc on va utiliser les contre-plongées comme image. Tout. Et c'est ça que je décortique. C'est-à-dire, c'est l'image, il est en train de décortiquer ces modes. C'est une lecture de qu'est-ce que c'est l'image. Et on le voit. À la fois la lecture palestinienne et la lecture israélienne, ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, elle s'est faite dans une opposition, mais il y a quelque chose qui est commun, qui se dégage. Et c'est ça qui m'a intéressé, dégager non pas seulement un discours sur le passé, mais aussi sur l'avenir. C'est-à-dire comment le passé, justement, peut se refléter sur un avenir.
Quelles sont les images de la Palestine que vous avez retrouvées ?
Les images de la Palestine, par exemple, il y a cette image qui est un petit peu au début du film, qui sont des images de 1913, des films muets, filmés par les Britanniques en 1913, dans lesquels on voit des grands propriétaires terriens palestiniens qui ont des ouvriers juifs qui travaillent pour eux, par exemple. C'est-à-dire, parce que là, il y a eu un travail qui n'était pas seulement la recherche des images, je recherchais des images d'archives, mais après, je m'intéressais à la lecture intérieure. Mais qu'est-ce qu'on voit en réalité? Comment faire voir aux spectateurs ce qu'on voit à l'intérieur? Qu'on voit qu'il y a des Juifs et des Arabes qui travaillent ensemble, par exemple, dans ces images. On voit que c'est une Palestine. Il y a les images de Jaffa, la ville de Jaffa avant sa destruction. C'est-à-dire, on voit que c'est une société, la société palestinienne d'avant la création de l'État d'Israël, la société arabe palestinienne, était en plein course vers la modernité, en plein industrialisation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de spectateurs. C'est-à-dire voir qu'avant Israël, il y avait quelque chose. Et c'est tout un pays, toute une société, toute une réalité qui a été détruite en 1948.
Que pouvez-vous dire de l'image que l'on a aujourd'hui d'Israël et de la Palestine à travers ce qui nous est proposé dans les médias?
Évidemment que ce film, il est une réflexion sur aujourd'hui. Il n'est pas une réflexion sur le passé. J'utilise le passé pour réfléchir sur aujourd'hui. On se retrouve dans les mêmes situations. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation dans laquelle les images qu'on a sont des projections. Des projections des images. Ce ne sont pas des images de la réalité. Ils sont une projection de la réalité. Ils sont une image qui essaye de correspondre aux images qui déjà existent dans la tête des gens. C'est-à-dire, les médias n'essayent pas d'avoir une image qui est une image nouvelle, une image qui dit quelque chose en elle, mais qui vient s'adosser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va filmer de Jérusalem ? On va toujours filmer la mosquée de Jérusalem, la coupole de Jérusalem, on va toujours faire de Jérusalem la ville sainte des trois religions monothéistes, etc. Mais ça, ça ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est une projection. Ça, c'est un cliché. Et donc, c'est que les médias occidentaux, et je pense qu'on le voit très bien dans le film, que c'est une histoire de projection. C'est-à-dire qu'il y a un problème à cause de la culture chrétienne, d'une certaine manière, et après, à cause de la difficulté qu'il y a en Occident d'avoir une parole libérée par rapport à Israël, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. On voit qu'il y a énormément de projections, et cette projection-là sur Israël continue de terminer l'image que les médias donnent d'Israël. C'est-à-dire, n'ose pas regarder vraiment la réalité, mais regarde la réalité à travers les images qui ont déjà existé dans le passé.
Mais comment peut-on voir la réalité puisque ce sont précisément des images qui nous la rapportent? Et ici, on est dans un festival qui s'appelle Vision du réel, qui rapporte des images de la réalité. Comment on fait avec ça?
Ça s'appelle subjectivité. Ça s'appelle la subjectivité, parce que quand on tente à l'objectivité, ça veut dire que ce qu'on essaye de faire, c'est montrer ce qui a déjà existé. Qu'est-ce que la vision du réel? C'est dire que les réels sont des visions. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision, c'est des visions du réel, c'est vision avec S. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui de journalisme, c'est ça qu'on attend aujourd'hui des médias, et c'est peut-être ça aujourd'hui le grand succès de l'Internet. Le grand succès de l'Internet, c'est ça, c'est la multiplication extraordinaire de points de vue subjectifs. Alors que les médias, tous les médias nous disent exactement la même chose. C'est-à-dire, quelle est la différence aujourd'hui, par exemple, regarder TF1 en France 2 en France, quelle est la différence quand on regarde TV5 et on voit tous les médias francophones? C'est la même chose. Il est où la spécificité? Il est où la subjectivité? Il est où les points de vue sur les choses? Et ça, c'est la différence entre les documentaires et les médias courants. Et c'est pour ça que les documentaires, il a un rôle. Il a son rôle qui est apporter des points de vue. Et faire confiance au spectateur, de faire la synthèse.
Donc pour vous, la réalité de l'image est dans la multiplicité, dans le fait d'en voir beaucoup provenant de sources très diverses.
Ce n'est pas seulement la multiplicité, mais la multiplicité des points de vue subjectifs. La multiplication des subjectivisations, pas la multiplication d'images justement, parce que la multiplication d'images nous amène à cette situation dans laquelle on ne voit plus. À force de voir des arbres, on ne voit plus que c'est une forêt. Non, moi je parle de la multiplication de points de vue subjectifs, c'est-à-dire vraiment, vraiment des choses. Je peux donner un exemple, qui est extrêmement important dans l'histoire des documentaires, qui est cette émission de la télévision suisse romande, qui était les temps présents. Temps présent, c'était quoi? Temps présent, c'était des points de vue subjectifs. Et la multiplication de points de vue subjectifs sur différents sujets. Et parfois sur les mêmes sujets, plusieurs points de vue subjectifs. Tout ça. Donc ce n'est pas la multiplication d'images, mais la multiplication de points de vue. Et c'est cette membrane, c'est cet kaléidoscope de points de vue qu'ensemble aide au spectateur, on peut donner au spectateur la possibilité de se forger son propre point de vue. Et c'est le contraire de dire, on va faire que de l'objectivité et le spectateur va voir. Non, quand on fait que de l'objectivité, on ne fait rien.
Dites-nous quelques mots des médias en Israël.
Vous savez, les médias en Israël, c'est extrêmement compliqué parce que les médias israéliens sont des médias dans lesquels ils ont une liberté extraordinaire d'expression. C'est une société qui est une démocratie absolue pour les juifs. Ce n'est pas le cas pour les arabes. Donc c'est une société dans lequel il y a une discrimination inerte et parfois législative à l'égard des Arabes, mais les médias israéliens, ils sont à la fois extrêmement libres et extrêmement homogènes. C'est-à-dire, il n'y a pas de médias d'opposition en Israël, alors qu'il pourrait y avoir, puisqu'il n'y a aucune, censure, grosso modo. On est en train de vivre maintenant une situation qui est un petit peu nouvelle, qui est des attaques extrêmement fortes sur certains médias. Il y a une journaliste, par exemple, qui vient d'avoir un procès pour avoir volé des documents secrets, etc. Il y a un journaliste qui est maintenant demandé par les services secrets israéliens pour avoir publié des secrets d'État et tout. Mais ça, c'est des éléments qui sont dérisoires. Ce qui est caractérise les médias israéliens, si vous voulez, c'est une autocensure absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est ça, je pense que c'est la plus grande caractéristique. Donc, c'est des médias à potentiel de liberté.
Est-ce qu'ils montrent vos films en Israël ? Est-ce que les médias parlent de votre travail qui est très critique ?
Les médias, quand ils parlent de mon travail, c'est pour attaquer mon travail. C'est-à-dire, moi, je suis beaucoup plus interviewé à l'étranger, j'enseigne dans des facultés étrangères, je suis demandé à des débats, non pas en Israël, c'est dans les cadres d'attaques extrêmement dures, parfois violents et tout, et les médias, non, ne montrent pas mes films, c'est-à-dire, oui, ces derniers films, j'ai fait La mécanique des oranges, a été montré sur une chaîne câblée documentaire israélienne, mais... Si vous voulez, les quelques cinéastes, appelons-les dissidents israéliens, on n'a pas une réelle existence dans les médias israéliens.
C'était Eyal Sivan, rencontré ce week-end à Vision du Réel à Nyon. C'est une interview que nous avons faite dehors, sous un arbre, et vous avez pu remarquer qu'on n'entendait que des oiseaux et pas un avion qui passe. Donc c'était pas mal pour les conditions d'enregistrement. Le festival continue jusqu'à mercredi. Reportez-vous au programme sur leur site internet pour faire votre choix parmi les nombreux documentaires proposés, comme par exemple ce soir l'un des films sur Nicolas Bouvier. On vous met leur site en lien.